jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invité. Ce midi, il est auteur de pièces de théâtre et metteur en scène. S'il est entré dans le théâtre par le jeu, l'envie de raconter et de créer a rapidement pris le dessus. Il adapte d'abord des textes classiques avant de se lancer dans l'écriture et de porter lui-même l'histoire. Le porteur d'histoire, c'est d'ailleurs le spectacle qui lance sa carrière et son succès. Et ses succès suivront le cercle des illusionnistes, Edmond ou encore Intramuros. Depuis quelques semaines et jusqu'à la fin du mois de juin prochain, sa nouvelle pièce Passeport se joue au Théâtre de la Renaissance à Paris.
Bonjour Alexis Michalik.
Bonjour, bonjour.
Bonjour, bienvenue merci, dans les midis de culture.
Alexis Michalik, avant de rentrer dans l'histoire que vous nous racontez dans Passeport, chaque pièce que vous montez et que vous proposez au public est un succès populaire, des pièces d'ailleurs dont j'ai cité les titres et qui sont encore à l'affiche aujourd'hui et depuis plusieurs années. Avec Passeport, quel était le défi que vous vous êtes lancé ?
Il n'y a pas vraiment de défi, hein. À chaque fois, il y a uniquement une envie de raconter, comme vous disiez tout à l'heure. Moi, je suis porté par l'histoire et c'est même le mot d'ordre à tous mes comédiens, c'est qu'on est tous au service d'une histoire. Donc c'est l'histoire qui me prend. Tout à coup, je vais avoir une idée. Tout le monde a des idées, hein. Et puis certaines vont être un peu plus persistantes que d'autres. Et c'est ces idées que je vais développer et laisser mûrir pendant parfois plusieurs mois, années. Et à un moment, j'aurai à peu près de quoi raconter une histoire. Et à ce moment-là, je commence à écrire et puis se met en branle le processus, quoi. Entre-temps, en général, je me suis beaucoup renseigné sur le décorum, pour essayer d'être un peu précis et de pas dire trop de bêtises. Donc pour ce qui était de Passeport, ça part aussi d'une idée et cette idée m'a amené dans la jungle de Calais. C'était évident que ça devait démarrer dans la jungle de Calais.
La jungle de Calais, je rappelle, c'est ce camp de migrants qui s'est construit aux portes de la ville de Calais dans le début des années 2010 jusqu'en 2016, au moment où il a été démantelé par les forces de l'ordre.
Voilà, et à son maximum, il accueillait environ 10 000 réfugiés qui, évidemment, voulaient tous passer en Angleterre. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me renseigner sur ce camp, sur le processus d'intégration, et puis de manière plus générale sur l'immigration en France, et j'ai commencé à comprendre que le propos serait un tout petit peu plus polémique que Edmond.
Mais alors justement, Alexis Michalik, un propos polémique au théâtre, quand on a un public qui nous attend sur ce sujet-là, une critique qui nous attend aussi, il y a une forme de défi tout de même sur cette thématique-là et sur aussi en 2023 remonter une pièce de théâtre.
Non, bien sûr. Après, bon, je pense que le défi, il est dans chaque création. À partir du moment où on crée quelque chose, il y a une forme de défi, puisque personne ne nous attend, puisque voilà, on décide de faire exister quelque chose qui n'existait pas avant. Donc déjà, il faut une certaine dose d'ego, et puis oui, il y a forcément un défi. Mais surtout, moi, je me réfugie toujours derrière l'histoire, et donc je savais que j'avais une histoire romanesque et forte, et qui allait me faire traverser, et qui allait aussi me donner l'occasion d'aborder des sujets qui me sont familiers, qui me touche et d'y amener ce que j'y amène en général, c'est-à-dire que je fais toujours des spectacles qui sont empreints d'optimisme, dont on ressort en général en n'étant pas complètement déprimé et avec une certaine envie, et avec un possible et avec j'ai ce côté qui est en moi en fait d'optimisme, de vision optimiste de la société, même si évidemment que en racontant le parcours de ces réfugiés, il y a des choses très dures qui leur arrivent et tout n'est pas rose. Néanmoins, je voulais parler de plus généralement de l'immigration telle que moi je la connais, c'est-à-dire quelque chose de positif et de raconter à travers cette histoire romanesque un message plutôt humaniste sur ce qu'est l'immigration de manière générale.
Il s'est passé quoi exactement ?
On ne sait pas. Il y a les tensions entre les Soudanais et les Afghans. Et peut-être il était au milieu.
Ah ouais, y a des dommages, hein, c'est sûr. Hein.
C'est sûr.
Hein?
C'est sûr.
Tu comprends ce que je dis?
Oui.
Il a dit oui, là. Tu parles français?
Oui.
Comment tu t'appelles?
Oui.
Comment tu t'appelles? Peggy.
Et ça?
Ah, il se souvient.
Oui, en même temps, vous l'avez appelé ça il y a 30 secondes. Hein. Et ton nom de famille, tu t'appelles Issa comment?
Je m'appelle Issa...
Je m'appelle Issa...
Kidane. Issa Kidane.
Kidane.
Oui, bon, bah, il y a amnésie, hein. Il a amnésia.
Sa mémoire, elle peut revenir?
Ouais, il a eu un œdème pendant 8 jours, il est complètement grillé. Hein. J'en ai vu plein des comme lui, hein, et qui n'avaient pas perdu la mémoire. Hein. Ils arrivent à Porte de la Chapelle, ils tombent dans le crack, et en 3 mois, c'est fini.
C'est fini.
Issa, tu sais où tu es? Tu es en France, tu es à Calais, dans un camp.
Calais.
Extrait de votre pièce de théâtre donc, que vous avez écrite et mise en scène, Alexis Michalik. Ça s'appelle Passeport et c'est donc jusqu'au 30 juin prochain au Théâtre de la Renaissance, avec notamment Patrick Blandin, qu'on a entendu, Jean-Louis Garçon, ou encore Manda Touré. On est au tout début de l'histoire. On se rencontre Issa, ce jeune érythréen qui est donc retrouvé inconscient, défiguré, tabassé dans cette jungle de Calais, et il se réveille amnésique. Et sa seule preuve d'identité, de bout de mémoire qui lui reste, c'est donc un passeport dans sa poche.
Un passeport érythréen, donc effectivement, et il lui reste aussi quelques mots de français. On se rend compte quand on lui parle qu'il a tout oublié. Il a oublié les langues qui se parlent en Érythrée, puisqu'il y a 9 langues qui se parlent là-bas, et on les cite dans la pièce. Il a oublié l'anglais, mais il lui reste quelques mots de compréhension, comme on vient de l'entendre. Il peut dire oui, je sais pas. Il y a quelque chose qui ressorte, et à partir de ces mots, en fait, il va tenter de s'intégrer petit à petit dans la société française. Évidemment, ça va être un périple qui va pas durer 2 jours, hein. Donc en 1h40, on va suivre plusieurs mois, plusieurs années de son parcours.
Il y a sa vie dans la jungle donc, où il rencontre des compagnons de route, Haroun l'Indien, Ali le Syrien. On suit aussi la façon avec laquelle il va se battre pour demander l'asile, pour obtenir des papiers, comment il va travailler, gagner de l'argent pour justement s'intégrer. Et puis il y a en parallèle une autre histoire, celle de Lucas, un gendarme, fils de militaire, qui lui a disparu lors d'une surveillance justement dans ce camp de ce camp de migrants.
Ouais, vous allez un peu vite en besogne, mais Lucas, on va surtout suivre son parcours de gendarme. Il revient de Guadeloupe où il était en poste. Il est né à Calais. Il est pas né à Calais. Il est né aux Comores, mais il a grandi à Calais parce qu'il a été adopté par un couple de Calaisiens, Michel et Christine, qui eux sont plutôt traditionnels, on va dire. Et il revient au pays et il est embauché en tant que gendarme pour justement faire la surveillance de ce camp. Donc il est de l'autre côté, puisque les gendarmes et les CRS n'ont pas le droit de rentrer dans le camp. Eux, ils se chargent leur seule mission, c'est d'empêcher que les réfugiés en sortent. Et lui, il s'est jamais vraiment posé de questions sur son identité, sur d'où il vient, mais il va rencontrer Jeanne, une jeune journaliste noire, elle aussi, née en France de parents maliens, et qui, elle, est beaucoup plus politisée que lui, et qui, du coup, va lui poser des questions sur d'où il vient, et un peu l'éveiller à qu'est-ce que c'est que l'identité et qu'est-ce que c'est que ses propres origines. Donc voilà, c'est des questions qui vont traverser toute la pièce.
Tout à l'heure, vous disiez, Alexis Michalik, c'est un sujet familier, c'est des sujets qui me touchent. Mmh. Effectivement, comment est-ce que vous...
Qu'est-ce qui vous touche?
Non, comment vous justement, vous les appropriez? Comment est-ce que vous mettez de la distance aussi par rapport à ces sujets-là pour les transformer en histoire que vous nous racontez sur scène?
Je pense que c'est un peu le béaba de tout ce que je raconte. La base, c'est d'être ému par mon sujet. C'est-à-dire que si ce sujet me touche, si ce que je raconte, cette histoire me touche, et c'est le cas pour Edmond, c'est le cas pour Une histoire d'amour, Intramuros, cette histoire, elle me touche d'une manière ou d'une autre. Pour des raisons personnelles, parce que quand on est touché par quelque chose, c'est forcément qu'il y a une résonance personnelle. Quelle que soit l'œuvre qu'on regarde, si on pleure tout à coup, c'est que ça nous rappelle un souvenir, c'est pas ex nihilo. Et après, ma mission à moi, puisque j'essaye de faire du théâtre populaire, c'est de faire en sorte que l'ensemble du public soit touché par la même chose, en quelque sorte. Que cette émotion que moi j'ai traversée et que j'ai ressentie, je puisse la transmettre au maximum de gens. Et pour ça, il faut tout simplement donner des clés de manière pas trop didactique à tous les gens qui vont venir voir ce spectacle. Donc, dans Passeport, c'est d'arriver à faire en sorte de dire aux gens, essayez de vous mettre à leur place. Essayez de vous mettre à la place d'Issa, essayez de vous mettre à la place de Lucas. Et pour ce faire, on va tout simplement vous raconter cette histoire d'une manière qui ne vous exclut pas, mais également en vous disant, qu'est-ce que vous feriez vous si une guerre éclatait et que vous deviez quitter votre pays et que vous arriviez entre deux pays, dans un pays dont vous ne parlez pas la langue, comment vous feriez-vous? Et c'est le prologue de Passeport.
Sur sur un sujet comme ça, Alexis Michalik, notamment quand vous avez une vision optimiste du sujet de l'immigration, sans tomber dans le didactisme, et pour que le public soit touché, vous n'avez pas eu peur d'être naïf ou de faire du pathos ?
En tout cas, non, c'est pas vraiment une grosse peur. C'est pas ma peur principale. Moi, ma peur, c'est que les gens viennent pas voir cette pièce. Moi, ma vraie peur, au fond, c'était que ceux qui sont directement représentés, à savoir les réfugiés, à savoir les enfants d'immigrés, de première, seconde génération, ne trouvent pas ça juste. Qu'ils sortent de cette pièce en disant on n'est pas au bon endroit. Ça parle pas de moi. Il y a un sentiment d'appropriation culturelle. C'est une vision de quelqu'un qui ne connaît rien à ce sujet. Ça, c'était ma peur principale, plus que d'être naïf ou positif. Parce que, en plus, le parcours qu'il traverse dans la pièce, il est pas rose, simplement. Comme dans toutes mes pièces, comme dans une histoire d'amour avant qui parlait de cancer, de deuil, etc., il y a de l'humour, parce qu'il y a de l'empathie. Moi, ma clé vers les personnages, vers le public même, c'est l'empathie que je mets dans un personnage. Pour que nous, public, on s'identifie à ce personnage, il faut qu'on l'aime, il faut qu'il y ait une porte d'entrée.
Vous revendiquez presque d'être pathos, en fait. Vous voyez pas ça comme une sorte de repoussoir où vous dites les gens vont pleurer, les gens vont être touchés.
Et tant mieux, si c'est le cas, c'est qu'ils ont traversé quelque chose, c'est qu'ils ont été touchés, c'est ce que je veux. Le pathos, c'est quand on se dit, là c'est des grosses ficelles un peu faciles, et j'essaie que ce soit pas trop justement des grosses ficelles et de garder un peu de subtilité, mais ils traversent des choses terribles, simplement. En fait, les réfugiés qui sont venus voir la pièce, et il y en a eu au début beaucoup, et on a fait venir plein de gens, des associations, etc., eux n'ont pas du tout ce sentiment-là, ils sortent pas en disant oh, c'est trop gentil, c'est vraiment une vision trop idyllique. Non, pas du tout. Ils disent mais c'est mon histoire, c'est exactement ce que j'ai vécu et ça les touche d'autant plus. Donc que des gens puissent ensuite dire oh, c'est un peu trop gentil, j'aurais préféré qu'ils se noient dans l'océan. Moi, honnêtement, c'est pas le message que je veux faire passer.
C'est pas que le côté positif, c'est le côté, vous l'avez dit, grosse ficelle aussi. Éviter de tomber dans une histoire qui serait trop facile de je m'empare d'un sujet difficile, mais regardez, je vous montre le positif et ça va vous faire pleurer, ça va vous émouvoir.
En fait, moi, ce dont je parle, c'est ceux qui arrivent en France. C'est ceux qui je raconte l'histoire de l'intégration, en fait. C'est comment est-ce qu'on arrive en France et par le prisme de ces personnages, je parle de Issa et de comment Issa va parvenir à s'intégrer en France, en tout cas, on l'espère. Et comment, justement, Lucas, Jeanne, tous les autres personnages sont eux les enfants de ceux qui sont parvenus à s'intégrer en France. Donc moi, l'histoire que je raconte, c'est pas une histoire de ceux qui n'y arrivent pas et que je veux pas que la morale ce soit, finalement, c'est vraiment trop dur de s'intégrer en France, rester chez vous. Ça, c'est pas du tout ce que je pense et ce que je ressens. C'est pas ce que je voulais raconter. Au contraire, moi, je veux que le sujet de cette histoire, ce soit tous les gens, et il y en a un bon paquet quand même, qui sont en France, mais dont les parents, en fait, ou les grands-parents sont arrivés à un moment.
Et ce que vous disiez aussi sur la forme, effectivement, on retrouve dans cette pièce votre patte de metteur en scène, quelque chose de très fluide, de très rythmé, où il y a 7 comédiens qui sont sur scène, qui incarnent une myriade de personnages. Je crois qu'il y a un comédien qui en joue jusqu'à 8. Un décor moderne qui, effectivement, nous maintient dans cette réalité aussi dont vous parliez, qui est aussi l'une des forces de vos pièces de théâtre même précédentes, c'est-à-dire d'ancrer effectivement dans le réel. Qu'est-ce qui, là aussi, pour peut-être arriver à raconter tout ce que vous voulez raconter, le départ de Calais, l'envoi dans des centres de réfugiés, le retour à Paris, tout ça c'est une histoire qui est effectivement très longue, très dense, où il se passe beaucoup de choses, où il y a des obstacles, et moi je pense notamment à cette scène où Issa, qui n'a plus de mémoire, doit justement apprendre un parcours fictif que lui a écrit son ami Ali, qui est prof de littérature, et qui appuie justement sur l'émotion là aussi.
Ouais, bien sûr, mais surtout, moi, j'ai cette obsession du rythme en permanence. Hein. Je n'aime pas l'ennui et je déteste que l'ennui soit associé au théâtre. Et donc, mes pièces sont très rythmées. Il y a une sorte de rythme frénésie cinématographique, presque sérielle. Et donc, toute cette histoire, toute cette épopée, je voulais que ça passe vite et qu'on sorte en se disant « Oh là là, toutes ces images que j'ai eues, il y a la traversée, il y a tout son parcours, il y a effectivement une fois qu'il va arriver, qu'il va monter à Paris et qu'il va commencer à bosser dans les cuisines, etc. » Enfin, il y a beaucoup beaucoup de décors et donc en plus on parle d'un sujet cette fois-ci qui est très proche de nous, très contemporain, où on a eu beaucoup d'images de Calais, des réfugiés, des camps, des traversées. L'utilisation de la vidéo me semblait évidente pour parvenir.
C'est
plus
plutôt
rapidement.
Nouveau pour vous.
Il y a toujours un peu de vidéo, mais là on va dire que elle se déploie grâce aux images de Nathalie Cabrol. Et voilà, je voulais que ce soit contemporain, mais qu'en même temps, j'ai besoin de toute façon que ça aille vite et qu'un décor chasse l'autre. Donc, oui, c'était nécessaire.
Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Ce rôle de spectateur, aujourd'hui, est tellement lié à toutes les associations culturelles que nous avons, que même le spectacle le plus dangereux est automatiquement rendu d'un certain côté inoffensif, parce que le public n'est pas directement mis en cause. Ils sont toujours dans cette position qu'adore prendre chaque public, la position d'être des juges. Mais jamais le public n'est touché directement, parce que la forme, aujourd'hui, n'empêche l'être. Mais si on remplace cette forme-là par un autre dialectique où les mêmes éléments d'opposition et de contradiction se passent moins entre les protagonistes et plutôt entre la scène et la salle, vous retrouvez la même situation d'opposition et de contradiction tragique, mais dans une forme qui, à chaque instant, devient cruelle, dangereuse, pour le spectateur.
La voix de Peter Brook, c'était dans Journal d'un honnête homme du 5 juillet 1967 sur France Culture.
Alexis Michalik, c'était à l'époque où Peter Brook avait proposé une pièce sur la guerre du Vietnam. On comprend mieux effectivement le sens de ce propos et de son engagement, mais ça nous a fait penser, en le réécoutant, à peut-être des questions que vous vous êtes posées. Vous aussi, tout à l'heure, vous disiez je veux faire un récit qui n'exclut pas le spectateur. Justement, comment vous vous êtes mis à la place du spectateur, qu'est-ce que vous vouliez lui faire ressentir? Est-ce que vous vouliez aussi le déranger peut-être à un moment donné sur cette question-là? Une question que vous-même vous avez qualifiée de polémique tout à l'heure.
Ouais, moi, j'ai du mal avec le malaise au théâtre. C'est-à-dire que en tant que spectateur, quand il y a une situation de malaise, ça me dérange un peu. En revanche, je voulais effectivement à la fois qu'il se mette à la place de ce que va vivre Issa et de ce qu'il va traverser et des obstacles qu'il va rencontrer, mais sans que ce soit non plus malaisant ou moralisateur ou accusateur. Je sais que c'est beaucoup plus efficace, un message est beaucoup plus efficace s'il n'est pas asséné avec une violence qui va exclure une bonne partie du public. Je préfère qu'on sorte de la pièce en gardant en ayant quelque chose qui a germé. Et il y a effectivement une seule scène où là c'est très différent de ce que j'écris d'habitude, je pense, qui est la scène entre Jeanne et Michel, où donc Lucas va amener sa petite amie Jeanne, la journaliste, à
dîner,
sa famille, voilà, pour rencontrer ses parents, et son père Michel est plutôt on va dire difficile et un peu arqué sur ses idées, plutôt réactionnaire, et les deux vont se retrouver autour du dîner et le sujet de l'immigration va arriver et le débat va se muscler. Et donc c'est vraiment la première fois que en enquêtant, en lisant évidemment sur le sujet, je me suis dit il y a tellement de chiffres et tellement de faits que je peux pas ne pas faire cette scène où j'oppose en gros les idées reçues qu'on entend à longueur de journée au Café du Commerce, mais aussi sur plusieurs chaînes d'infos privées, et à des véritables chiffres, à quelque chose de documenté et qui n'est pas simplement passionnel, qui est réel, quoi. Et c'est ce qu'il en résulte. Et effectivement, je pense que c'est une scène où tout à coup, alors que depuis une heure on est plutôt extérieur, on est plutôt dans un confort et on suit un peu ses aventures, c'est un miroir, parce que on se retrouve à se dire où est-ce que je suis moi dans ce ping-pong, dans cet échange, quelle est ma position dans tout ça. Et d'une certaine manière, dans tout le spectacle, ils sont sept sur scène, il y a un comédien non racisé qui est Patrick Blandin et qui joue plusieurs personnages dont Michel, et tous ces personnages qu'il joue, il va jouer le médecin MSF, il va jouer
Le banquier.
Le banquier, sont des personnages qui ont une importance à un moment dans l'accueil et le destin de d'Issa. Et le spectateur lui-même va se retrouver à se dire, en tout cas le spectateur non racisé, va se retrouver à se dire, où est-ce que je suis moi dans le prisme de ces possibles? Quel est moi mon regard par rapport à justement cet étranger qui arrive, quel est mon regard par rapport à cette personne qui essaye de s'intégrer? Et c'est là que le spectateur est actif et qui se positionne et qui se demande, est-ce que je suis plutôt le mec qui les aide ou est-ce que je suis plutôt le mec qui est Michel?
Mais donc là, sur cette scène, si je me suis bien, Alexis Michalik, vous êtes d'accord avec Peter Brooks sur l'expérience du spectateur, sur sa façon d'opposer
parfois? D'une manière générale, je suis quand même beaucoup d'accord avec Peter Brooks.
Cette scène, justement, elle est arrivée à quel moment dans l'écriture et est-ce que vous diriez qu'elle a été aussi inspirée par, vous avez parlé des chaînes d'information, de l'actualité, de la société, en tout cas d'un climat de la société actuelle?
Ben, en général, moi, je vous dis, j'ai plutôt tendance à faire des récits fédérateurs et essayer de faire un théâtre populaire, donc qui n'exclut personne. À la fois des gens qui n'ont pas forcément les codes du théâtre et qui viennent au théâtre pour la première fois, et moi, mon but, c'est qu'ils ressortent en disant ça me donne envie d'aller au théâtre, et à la fois des gens qui vont beaucoup au théâtre et qui disent ah tiens, bah, c'est un peu comme d'aller voir un truc de populaire mais de qualité qui fait passer un bon moment et qui change. Là, cette scène-là, petit à petit, elle arrivait. Je me disais, je ne peux pas ne pas la mettre. C'est trop important que je puisse pas exprimer ce que j'en pense ou tout simplement ce que j'ai appris en glanant ces informations. Et il y avait presque un petit plaisir de me dire j'attends de voir comment ça va réagir à ce moment-là et ça ne manque pas, c'est vraiment le moment où la salle réagit le plus.
Ils font quoi?
Ils jettent des tomates.
Ouais, c'est ça, ils crient scandale.
Non, mais ils réagissent à chaque réplique de Michel et à chaque réplique de Jeanne, puisque il y a déjà une scène en préparatif où il va un peu la titiller. Il va dire tout ce qu'on dit quand on est un peu maladroit et qu'on rencontre quelqu'un qui est noir ou qui est racisé et qu'on n'a pas l'habitude, il va tomber dans tous les poncifs, il va demander d'où elle vient, il va de quel pays, ça fait longtemps, est-ce qu'elle est vraiment française, enfin tout ce truc en fait que subissent toutes les personnes racisées au quotidien mais d'une manière un peu affirmée, assumée et de quelqu'un qui malgré tout a adopté un enfant noir et donc il y a cette espèce de protection vis-à-vis de la société. Ça va se tendre de plus en plus au fur et à mesure de cette scène, et on sent que le public se tend aussi, qu'il est outré de plus en plus, qu'il a envie de rentrer dans le débat, et donc effectivement c'est assez jouissif.
Ça vous a donné envie de faire plus de scènes de ce genre-là pour d'autres pièces où justement vous n'êtes pas dans quelque chose de fédérateur, mais de plus sans tomber dans le malaise?
C'est en fait moi je considère que tout pas. Encore une fois, je reviens toujours à l'histoire. C'est-à-dire, mon but, c'est de raconter des histoires.
Ah, mais après, il y a les manières de la raconter.
Bien sûr. Mais je n'ai pas l'impression... De manière tout à fait honnête, moi, je n'ai pas l'impression d'être radical dans mes positions. Quand j'écris Passeport, c'est un point de vue de gauche, que la plupart de mes potes partagent. Et donc, je n'ai pas du tout l'impression de faire quelque chose de révolutionnaire. Plutôt d'enfoncer des portes ouvertes pour moi. Néanmoins, quand je vois les réactions provoquées, je comprends que aujourd'hui, c'est pas si anodin. Et est-ce que j'ai envie de continuer dans cette direction-là? On verra ce que l'histoire d'après.
Il y a un public qui se pose des questions, qui se tend.
Ouais, mais en même temps, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que c'est une scène dans la pièce, c'est un moment où tout à coup ça réagit, mais l'ensemble de la pièce n'est pas que cette scène. Et c'est parce qu'il y a cette histoire et qu'à un moment, il y a cette pause et ce moment de réflexion et de débat que je peux me permettre cette scène-là. Mais c'est parce qu'il y a toute l'histoire, tout le côté romanesque, toute l'Odyssée. Il n'y a pas que ça dont on se rappelle. On va se rappeler de la fin, sans la dévoiler, mais il y a de l'émotion, il y a de la montée, il y a de l'humour, il y a plein de choses. Et puis, il y a ce moment qui, effectivement, est nouveau.
On a écouté tout à l'heure Alexis Michalik, la voix de Peter Brook, metteur en scène et réalisateur britannique, qui a été quelqu'un qui vous a fortement influencé. Et vous avez une histoire, si je puis dire, avec la famille Brook, puisque quand vous avez débuté en tant qu'acteur, il y a quelques temps maintenant, vous avez travaillé sous la direction d'Irina Brook, la fille de Peter Brook. C'était le moment, peut-être, où vous étiez donc acteur et où vous découvriez cette idée de troupe, cette idée
de
aussi
mise en scène,
de mise en scène et justement de la création plus que de l'action.
Ouais, j'avais 18 ans et moi je rêvais juste d'être acteur et je me suis retrouvé à faire Roméo sur Juliette et Roméo d'Irina Brook et sa façon de créer était révolutionnaire pour moi parce que je sortais d'un théâtre scolaire puisque j'avais fait un club de théâtre au collège-lycée et donc ma vision de la mise en scène c'était de respecter les didascalies et de parler fort quoi. Et là, tout à coup, je tombe sur quelqu'un qui crée un groupe, qui dit « Vas-y, faites des chansons, jouons à la balle aux prisonniers avant d'attaquer les répètes, créons un ensemble, proposez. » Et tout ça, tourné vers le public, c'est Shakespeare, il faut raconter cette essence, mais on peut aussi raconter autre chose. Enfin, c'était assez dingue, quoi. Je réalisais la liberté qu'on pouvait avoir dans la mise en scène. Et en même temps, au fur et à mesure qu'on répétait, je me disais « Ah mais là, tu veux pas garder ce gag, il est quand même chouette ?» Et puis Irina disait « Non, pas là. » Et je me disais « Ah, si jamais je l'avais mis en scène, peut-être que j'aurais fait autrement. » Et ça, c'est le début de l'envie de mettre en scène, quoi. Et à partir de là, effectivement, juste après Roméo et Juliette, j'ai monté mon premier spectacle qui était Le mariage de Figaro, qui était un classique revisité avec une bande de copains du conservatoire municipal et qu'on a amené à Avignon. Et en découvrant Avignon, bah, je me suis dit « Ah mais en fait, il y a peut-être quelque chose à faire ici. » Quoi.
Qu'est-ce qui vous a tant marqué à Avignon ? Vous parliez de liberté il y a quelques instants. Est-ce que c'est ça peut-être ce qui ressort le plus, l'idée de se donner les moyens de faire des choses, d'avoir des moyens, même sans avoir les moyens financiers peut-être ?
Je pense que c'était tout simplement le fait qu'il y avait cet endroit, donc Avignon, dans le off, hein, puisque moi je suis un enfant du off.
C'est la programmation alternative, si on peut dire, pour ceux qui ne sont jamais allés.
Alternative, c'est un mot rigolo, parce qu'il y a évidemment beaucoup plus de spectateurs qui vont dans le off que dans le in, rappelons-le. Hein, comme il y a beaucoup plus de spectateurs qui vont voir du théâtre privé que du théâtre public. Mais oui, c'est effectivement la programmation qui n'est pas la programmation officielle. Et donc, c'est un réseau. Il y a une centaine de salles qui louent leurs salles. Et il y a des spectacles de 10h du matin jusqu'à minuit. Et tous les 2h, il y a un autre spectacle. Et je découvre en fait... déjà l'économie hein, du théâtre, puisque je découvre qu'on peut vivre en faisant du théâtre, qu'on peut créer sa troupe, qu'on peut louer un théâtre pendant un mois à Avignon, puis vendre des dates de tournée. Je découvre qu'on peut vendre des dates de tournée à des municipalités, qu'en fait, il y a moyen de gagner de l'argent, en tout cas d'être
devenir
payé
milliardaire
pour ce qu'on
avec
fait.
Le théâtre.
Ça, je le découvre pas tout de suite. Mais non, je découvre qu'en fait, moi, j'y allais vraiment en me disant on y va pour jouer, quoi. Mmh. On y va pour faire Avignon. Et puis, c'est à Avignon, quand il y a un programmateur qui vient et qui me demande un dossier de presse, et que je dis, c'est quoi un dossier de presse ? J'avais 22 ans. Hein. Et que je comprends qu'en fait, il y a tout un système qui permet de faire des spectacles et d'en vivre. Et qui n'est pas un système où on doit aller chercher nécessairement des subventions, mais qu'il y a toujours, il y a moyen d'y arriver. Il y a moyen, en créant un spectacle dans notre coin, de l'amener à Avignon et d'avoir une chance de voir ce spectacle avoir une vie. Et donc, l'année d'après, c'est comme si j'avais un espace de création. Moi, très tôt, je vais un peu voir qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Je vais voir la DRAC.
La Direction Régionale des Affaires Culturelles.
Voilà, ou d'autres organismes qui accordent des subventions. Je leur dis, j'ai envie de faire un Shakespeare revisité en comédie musicale avec beaucoup de gags. Ils me disent, c'est pas vraiment l'endroit pour nous. Nous, c'est plutôt, si vous voulez, faire une pièce d'un auteur engagé, étranger, qui raconte un truc un peu plus dur, là, on peut vous accorder une subvention.
Donc, c'est là que naît l'Alexis Michalik, un peu entrepreneur du théâtre privé, qui va créer sa façon de mettre en scène et de monter des projets avec, vous le disiez, aussi une idée très égalitaire. Il n'y a pas de tête d'affiche, par exemple, dans vos spectacles. Vous choisissez des comédiens.
De très bons comédiens.
Très bons comédiens. Ouais.
Mais effectivement, mais même pas seulement les comédiens. Il n'y a pas de tête d'affiche dans le sens où dans mes spectacles, il n'y a pas de rôle prédominant.
C'est une troupe.
C'est une troupe et chacun va avoir autant à défendre que l'autre. Mais surtout, Avignon, le off, en tout cas, c'est une espèce de petit laboratoire. laboratoire de ce que c'est que le théâtre privé. Mmh. C'est à petite échelle, tout le monde à peu près peut se débrouiller pour trouver les moyens, pour louer sa salle, partir là-bas et créer son spectacle et se confronter à un public qui n'est pas un public d'amis, puisque dans le off, les gens viennent pour voir des spectacles.
Et donc partent dès que ça les saoule.
Pas forcément, ou reste jusqu'au bout puisque ça dure pas trop longtemps, mais en tout cas on peut aller voir des spectateurs dans la rue et leur dire voilà, je vous parle de mon spectacle. Donc c'est vraiment le béaba de la com, là où aujourd'hui...
Mais moi, ça a rien à voir avec la mise en scène, ça aurait pu vous rebuter. Parce qu'entre créer et communiquer sur un spectacle, chercher des financements, vous avez aussi trouvé un certain plaisir à faire ça.
Et non, mais la mise en scène, là on ne parle pas de ça. Je vous parle d'Avignon, je vous parle de ce qu'est Avignon et pourquoi Avignon a été une révolution. Je ne parle pas du côté artistique de ce que je crée. Je parle du fait que je me suis dit, donc en fait, je peux avoir une plateforme pour avoir des spectateurs et pour avoir cet endroit qui est une scène, et alors qu'à Paris, c'est évidemment beaucoup plus difficile quand on est une jeune compagnie. Il y a cet endroit, Avignon, où chaque année, on peut revenir et avoir un public qui n'est pas un public d'amis, qui est un public qui vient, qui paye sa place. S'il applaudit à la fin, c'est qu'il est content. Et à Avignon, il y a une règle prédominante dans le off qui est que le bouche à oreille, c'est le plus important. Si on a un spectacle qui fait parler de lui... On n'est pas sur une question de tête d'affiche, on n'est pas sur... Il faut juste que le spectacle soit suffisamment original, fort, drôle, percutant, intelligent ou émouvant, et ça suffira, normalement, à remplir cette salle.
Allez, allez ! 3 minutes avant l'acte 2 !
Très bellement, bien.
Merci, monsieur Austin. Dites, en ce qui concerne la psychologie du personnage...
Edmond ! Edmond !
Qu'est-ce qu'il y a encore, Maria ?
Pourquoi n'ai-je pas de réplique dans le 1 ? Coquelin avait tous les rires et moi au balcon comme une cruche.
Enfin, c'est vous-même qui m'avez...
Parce que je suis une femme ? Vous pensez que je n'ai pas assez de mémoire ?
Bon, enfin, il y a 8 jours, vous vouliez quitter le spectacle.
L'ai-je quitté ? Non ! Je suis revenue ! Et heureusement pour vous, je me demande bien d'ailleurs ce que vous auriez fait sans votre...
Ah ! Oh mon Dieu, Roxane est morte à l'acte 1.
Elle respire.
Les gorias, hein.
Bon, et bien vite, remontons là, apportons des selles.
Elle ne jouera jamais, elle va faire baisser le rideau.
Monsieur Coquelin, en scène pour le 2.
J'arrive.
On la remonte ou on ne la remonte pas?
Vous connaissez le rôle?
Par cœur.
Il y a un costume de rechange?
Il y en a 2.
En scène, dans 10 minutes.
Mais...
Enchanté Roxane, Christian de Nominette.
Vous savez vraiment le texte?
Oui, sauf l'acte 5.
Un extrait d'Edmond, votre film, Alexis Michalik. C'est l'adaptation de votre pièce éponyme qui a été créée en 2016 au Théâtre du Palais Royal et qui est toujours à l'affiche du théâtre.
Tout à fait, absolument. On a fêté la 1600e au Théâtre du Palais Royal. Devant nous, il y a La Cage aux Folles, qui en ont fait 1800, mais on ne désespère pas de les dépasser.
Oh, c'est à portée de main, là, quand même. Pas c'est, à portée de main,
pense,
mais
on y pense,
c'est
on y pense tous.
Alexis Michalik, l'histoire du film et de la pièce sont intéressantes dans votre parcours, parce qu'à l'origine, le projet était de faire un film.
Oui, tout à fait.
Aucun réalisateur n'en voulait, du coup, vous l'avez monté sur les planches.
Réalisateur, distributeur, enfin, personne n'en voulait, mais on... c'est un projet que j'avais depuis 10 ans, 15 ans dans la tête, et puis j'ai fini par trouver un producteur, Alain Goldman, chez Légende, avec Vanessa Djian qui est venue me chercher à la sortie du Porteur d'Histoire, en me disant « Est-ce que tu as un rêve de cinéma ?» J'ai dit « Oui !» J'ai raconté Edmond, il m'a dit « Part banco, allez-y, développons le scénario », et puis effectivement, personne n'en a voulu, et un jour, je vais à Londres voir des spectacles, et je vois Shakespeare in Love adapté au théâtre, et je me dis « Mais en fait, il faut que je fasse au théâtre d'abord, ça va être beaucoup plus fort », et puis finalement, le Palais Royal, Francis Nani et Sébastien Azopardi nous ont ouvert les portes et on a démarré en septembre 2016 et on y est toujours, donc c'est une histoire un peu dingue.
Il y a beaucoup de théâtre dans le film et beaucoup de films dans le théâtre, en tout cas de façon de réaliser d'inspiration cinématographique dans le 2. C'est quoi la force de ce spectacle Edmond que vous avez mis en scène?
Vous savez, c'est des choses qui nous dépassent, hein, vraiment, comme le Porteur d'Histoire avant, qui qui a été créé dans un garage et qu'on a joué 3000 fois. Le Edmond, c'est, je pense que ça touche à quelque chose, à une âme française aussi, comme, parce que Cyrano, c'est la pièce de théâtre préférée de tout le monde, hein, concrètement. Ça nous touche particulièrement, c'est un perdant magnifique, c'est de la poésie, de la romance, de l'humour, c'est tout ce qu'on aime, quoi. Tout le monde adore Cyrano, moi-même, je suis fan de Cyrano, et Edmond, bah, c'est l'âme de Cyrano que j'ai essayé d'insuffler dans cette pièce. Donc c'est il y a du Cyrano là-dedans, et je pense que ça touche particulièrement notre ce qu'on est nous en tant que Français. Puis en plus ça parle du 19e siècle, de ce siècle de création, d'auteurs, de compositeurs, de Paris, de ce que Paris était. Il y a une certaine nostalgie aussi là-dedans. Il y a tout ce qu'il faut pour que ça nous parle, à nous, public français en tout cas.
Metteur en scène au théâtre, réalisateur au cinéma, ce sont deux professions, deux métiers qui sont les mêmes pour vous ?
Non, c'est différent. Enfin, ça s'alimente, mais c'est très différent. Ma phrase, c'est qu'au théâtre, on raconte et au cinéma, on montre. Donc, quand j'écris pour le théâtre, il peut y avoir de l'adresse au public, on peut décrire une bataille. Au cinéma, il faut la montrer. Donc, le cinéma, c'est... moi, personnellement, je trouve ça plus dur, dans le sens où je trouve ça plus exigeant. C'est des moyens plus grands, il faut aller les chercher, et puis il y a beaucoup plus de concurrence. Mais c'est magnifique le cinéma, parce qu'on raconte l'histoire dans le désordre aussi, on la tourne pas dans l'ordre chronologique. Le théâtre, c'est quelque chose de plus artisanal, et en même temps, moi, le théâtre, c'est mon ADN. Moi, j'aime qu'on y retourne tous les soirs, j'aime que ce soit l'art de l'éphémère, que tant qu'une pièce se joue, ça veut dire qu'il y a des acteurs qui sont en train de la jouer, alors que, comme disait Jouvet, hein, au théâtre, on joue, au cinéma, on a joué.
Quelles sont les prochaines histoires qui sont en attente ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont inspiré récemment ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà dans les tiroirs et qui vont bientôt éclore, Alexis Michalik ?
Je dirais pas jusque-là, mais oui, il y a des choses sur lesquelles je travaille, mais j'ai pris l'habitude de ne jamais parler de mes projets, parce qu'à chaque fois que j'en parle, ça ne se fait pas et je fais autre chose finalement. Donc, je préfère juste parler de ce qui a été fait, c'est plus facile.
Il y a une chose que vous ferez avant l'été ? Ouais. Alexis Michalik,
oui.
Vous me voyez venir, c'est porter la flamme des Jeux Olympiques. Vous avez été choisi comme éclaireur, notamment, je cite ceux qui ont fait le choix, pour votre capacité à faire vivre les émotions.
Ouais.
On y revient.
Je suis extrêmement fier, je suis hyper heureux de ça. Je vais la porter à Avignon sur 200 mètres, donc a priori ça devrait aller au niveau sportif. Mais oui, moi j'adore le sport, j'adore ce que ça colporte, j'aime regarder, j'aime participer, j'aime jouer, je suis très heureux de ça.
Et vous aimez gagner ?
J'aime gagner, oui, mais ça va, je suis un bon perdant aussi.
Merci beaucoup Alexis Michalik d'être venu dans les Midi de Culture. On s'approche de la fin de l'émission. Je rappelle que votre pièce Passeport se joue donc au Théâtre de la Renaissance à Paris jusqu'au 30 juin prochain, avec Patrick Blandin, Christopher Bayemi, Faisal Safi, Ismaan Yakini, Jean-Louis Garçon, Kevin Rezi et Manda Touré.
Pour finir, Alexis Michalik, nous avons choisi deux musiques, deux airs en référence à des classiques que vous avez rencontrés dans votre carrière, Figaro ou Roméo et Juliette. Lequel des deux souhaitez-vous écouter ?
Oh, Figaro.
Farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, nelle belle tue balla il riposo, Narcisetto aroncino d'amor. Nelle belle tue balla il riposo, Narcisetto aroncino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero e galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non più avrai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle turbata il riposo, Narcisetto a Doncino d'amor.
Les Noces de Figaro pour terminer cette émission. Merci beaucoup, Alexis Michalik, d'être venu sur France Culture dans les Midi de Culture, une émission préparée par Aïssa Touendoï, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignet, Manon Delasselle et Laura Dutèche-Pérez. L'émission est réalisée ce midi par Nicolas Berger et à la prise de son, c'est Dali Yaha. Merci Géraldine.
À demain Nicolas, merci à vous.